19h sur Europe 1.
La mort de Victorine en Isère n'était pas accidentelle, c'est ce que révèle ce soir l'autopsie. La jeune femme est morte noyée avec l'intervention d'un tiers.
Les derniers chiffres de l'épidémie ne présagent rien de bon à la veille d'une nouvelle conférence de presse du ministre de la Santé. Olivier Véran pourrait annoncer de nouvelles restrictions.
La capitale pourrait subir le même sort que Marseille, où la justice a tranché, les bars et les restos resteront bien fermés.
Quid des universités? Les clusters s'y multiplient.
Près de 250 000 IVG sont pratiquées chaque année en France. Le délai légal va être porté à 14 semaines au lieu de 12, 1er février aujourd'hui.
L'incendie de Notre-Dame de Paris, la Cour des comptes demande davantage de transparence dans l'utilisation des dons.
Et puis Roland-Garros, encore une mauvaise journée pour les Français, encore un de moins, Benoît Paire éliminé à l'instant.
La tendance météo, bienvenue, voilà l'automne.
C'est ça, c'est un jeudi très automnal, effectivement, un vrai temps de saison demain avec des averses, des éclaircies, des températures en baisse avant l'arrivée vendredi de la tempête Alex. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une confirmation, il s'agit bien d'un acte criminel. On a les résultats de l'autopsie du corps de la jeune Victorine, retrouvée noyée lundi dans un ruisseau près de Villefontaine, en Isère.
Autopsie qui confirme donc, Jean-Luc Boujon, qu'il ne s'agit pas d'un accident.
Effectivement, cette fois, c'est une certitude. La jeune femme n'est pas morte par accident. L'autopsie qui a été pratiquée aujourd'hui à Grenoble a conclu à une mort par noyade avec intervention d'un tiers. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur de Grenoble. Intervention d'un tiers qui est prouvée par de multiples ecchymoses retrouvées sur le corps de Victorine. Le parquet de Grenoble qui précise également qu'à ce stade, aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée. Toutefois, cette hypothèse n'est pas encore complètement écartée. Des examens complémentaires doivent encore avoir lieu. L'enquête se poursuit donc pour savoir qui peut être ce tiers. Est-ce une personne rencontrée par hasard sur le chemin du retour près du ruisseau où la jeune femme a été retrouvée lundi? On se souvient qu'elle avait appelé ses parents samedi peu avant 19h en leur disant qu'elle serait là 20 minutes plus tard. Ou alors, est-ce une personne qu'elle connaissait déjà? C'est l'autre hypothèse examinée par les enquêteurs. C'est pour cela qu'ils décortiquent minutieusement depuis plusieurs jours maintenant le téléphone de Victorine, ses communications et ses échanges sur les réseaux sociaux pour tenter de trouver une éventuelle piste.
Merci Jean-Luc Boujon.
Les Marseillais ont espéré jusqu'au dernier moment, mais la justice a tranché. Le tribunal administratif rejette le recours déposé contre la fermeture des bars et des restaurants. Décision similaire à Bordeaux en ce qui concerne les salles de sport, qui elles aussi resteront bien fermées.
Les Marseillais qui ne décolèrent pas, les représentants des bars et des restos envisagent de saisir maintenant le Conseil d'État.
Oui, alors que Paris pourrait être la prochaine sur la liste.
Face à des indicateurs très inquiétants, le ministre de la Santé, Olivier Véran, pourrait demain faire des annonces avec peut-être de nouvelles restrictions. Pour Paris donc, mais aussi peut-être pour Lyon, pour Lille, Toulouse et Grenoble. En tout cas, Jean Castex recevra demain les maires et présidents de ces métropoles. Il s'est déjà entretenu aujourd'hui avec la maire de Marseille.
Et ce matin sur Europe 1, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a confirmé une recrudescence des cas dans les universités.
Pour autant, elle écarte une fermeture généralisée, là où l'on ferme des bars et des restaurants. Pourquoi pas les facs, Virginie Riva?
Alors, on ne ferme pas les facs, car la majorité des contaminations ont lieu en dehors des lieux d'enseignement, le week-end, au cours de soirées entre amis étudiants, mais ensuite, c'est aux facs de gérer au cas par cas le problème. Si la majorité des universités ont en gros adopté la règle du 50% des cours en distanciel, 50% en physique, dès qu'il y a un cluster identifié, là on change de scénario. Le président d'université réunit sa cellule de crise et décide de la fermeture d'un site, d'une promo, d'un bâtiment. C'est beaucoup plus simple de fermer des écoles ou des grandes écoles qui ont une unité de lieu, mais parfois, il faut aussi fermer des facs. C'est le cas cette semaine à Angoulême, par exemple, à la fac de sport. Tous les cours sont à distance. Même chose à Dijon avec les premières années de psycho et les troisième années de médecine. Autre paramètre à prendre en compte, la zone géographique. Pour les zones d'alerte maximale, comme à l'université d'Aix-Marseille, l'intégralité des cours en amphi sont proposés à distance. Seuls les étudiants sans ordinateur peuvent venir sur le site de la fac. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, il y a des cours maintenus en amphi si l'amphi ne dépasse pas le seuil de 30% de sa capacité d'accueil.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1 notait que les déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont interdits à partir de demain, annonce ce soir de la préfecture, à moins d'un motif impérieux. Cette mesure est destinée à réduire les flux de voyageurs et à protéger chacun de ces territoires de cas importés de Covid-19.
En tout cas, il n'y a pas qu'en France que les mesures se durcissent. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, comme chaque soir à 19h. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Et ce que vous nous dites, Didier, c'est que tous les pays sont confrontés à cette fameuse deuxième vague et que partout, les mesures prises pour tenter de l'endiguer passent mal.
Oui, parce qu'en fait, le rebond épidémique ne touche pas que la France. Vous savez qu'on a dépassé en début de semaine le seuil symbolique du million de décès pour la pandémie de Covid-19, avec partout ce même constat des scientifiques et des médecins, le nombre de contaminations est à la hausse de manière importante sur l'ensemble de la planète, avec en revanche un taux de mortalité qui reste à ce stade moins élevé qu'au début de l'épidémie. Mais pour éviter un nouveau dérapage, l'Organisation mondiale de la santé a demandé au gouvernement de limiter au maximum la diffusion du virus en durcissant les mesures de distanciation sociale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas que les Gaulois qui sont réfractaires face à cette réduction des droits individuels. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, ça grogne sur tous les continents, Europe, Amérique, Asie, Afrique. Aucun n'est épargné, pas même le Pacifique, à l'exception peut-être de quelques îles de Polynésie, puisque l'Australie, qui paraît pourtant bien isolée au bout du monde, a décidé un second confinement extrêmement dur, avec une fermeture totale de ses frontières pour 6 semaines, y compris pour ses ressortissants bloqués à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer chez eux.
Avec interdiction aussi d'aller visiter sa famille outre-mer.
Oui, absolument. Il faut réclamer une autorisation, une dérogation spéciale qu'il est extrêmement difficile d'obtenir. Vous imaginez l'ambiance, sachant que 33% de la population australienne est d'origine immigrés. Mais les mesures sont aussi sévères en Grande-Bretagne, avec une interdiction de toute réunion de plus de 6 personnes, y compris au sein de la même famille. En Espagne, ce sont des quartiers entiers qui sont reconfinés. La Hollande ferme tous ses cafés et ses restaurants à 22h et elle a instauré le télétravail comme la norme désormais. Même l'Allemagne est débordée. Pourtant, c'était le modèle de la gestion de crise sanitaire durant la première phase de l'épidémie. Et bien, la chancelière a décidé de restreindre hier les accès aux lieux publics, dont les bars, ce qui provoque des réactions outrées des professionnels et des clients. Finalement, vous voyez, les Marseillais et les Français sont pas plus râleurs que les Allemands.
Il faudra suivre le modèle suédois aussi, qui avait posé question au début de l'épidémie. Où ils en sont? Je crois qu'ils ont réussi à peu près à endiguer l'épidémie avec une approche assez différente de la nôtre.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Cette petite révolution vers un changement donc de législation pour l'IVG en France.
Oui, les députés ouvrent la voie en tout cas à un allongement du délai légal, Eve Roger.
Oui, ce texte prévoit 15 jours de plus pour les femmes qui désirent avorter. Le délai légal passerait donc de 12 semaines de grossesse à 14. Alors ces quelques jours en plus permettraient aux femmes qui se retrouvent hors délai parce qu'elles ont eu du mal à décrocher un premier rendez-vous, tout simplement du mal à se décider, leur permettrait donc d'éviter de partir à l'étranger pour avorter en Espagne, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Elles seraient 3 à 5 000 chaque année, donc un plus pour elles. Mais les médecins, eux, sont mitigés, même ceux qui pratiquent déjà les IVG, comme Philippe Deruel, secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens.
Moi, je suis assez partagé sur cette question. J'entends qu'il y a des femmes qui dépassent le délai. Pour moi, qui fait des interruptions volontaires de grossesse, c'est des gestes que nous, on n'aime pas beaucoup. Idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on facilite l'accès à l'IVG le plus tôt possible, plutôt que d'allonger sur des situations qui, techniquement, pour nous, sont quand même vraiment plus difficiles.
Alors, il faut rappeler qu'en France, ce n'est pas toujours facile d'accéder à l'IVG, justement. Seuls 3% des généralistes et gynécologues et 3,5% des sages-femmes le pratiquent. Un acte médical aujourd'hui complètement dévalorisé en France.
Merci beaucoup. Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1. Un lycéen a poignardé un autre élève dans une salle de classe du lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce matin. La victime âgée de 16 ans a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger. Son agresseur a été placé en garde à vue.
Dans l'actualité également ce soir à 19h10, cette question. Que sont devenus les dons pour Notre-Dame de Paris?
Eh bien, la Cour des comptes épingle la gestion de l'argent qui a été récolté. Une très
grosse
somme.
Il y en avait beaucoup d'argent.
Effectivement. Les Français ont payé pour restaurer la cathédrale, pas pour financer les dépenses de fonctionnement de l'établissement public chargé de la restauration, justement, du bâtiment. Ce que regrette Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
Nous demandons que les dons servent tous à ce pour quoi ils ont été prévus. Les donateurs ont donné pour reconstruire et restaurer la cathédrale. Ils payent aussi, ce n'est pas un montant considérable, mais ça nous paraît préjudiciable à la clarté, les frais de fonctionnement de l'établissement public, 40 personnes, un loyer, des salaires. Et donc ce que nous demandons, c'est que soit mis fin à cette débudgétisation et qu'une subvention soit inscrite au budget du ministère de la Culture pour assurer le financement de l'établissement public.
Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, et la réponse ce soir de Christophe Charles Rousselot, qui est le délégué général de la Fondation Notre-Dame. Pour lui, il n'y a eu aucun abus.
Nous avons une mission de collecte, mais nous avons un rôle aussi d'information des donateurs. Donc on se sent très concerné, bien sûr, par ce que dit ce rapport. Et tout le dialogue que nous avons commencé à avoir avec l'établissement public a pour objectif, justement, d'interroger l'établissement public sur l'utilisation des fonds, L'établissement public fait tout sauf du gaspillage. Il n'y a aucune dérive en matière de gestion des dons. Je crois que c'est la chose qu'il faut établir ou rétablir. Donc aucun donateur jusqu'à présent n'a été floué.
Le président de la Fondation Notre-Dame au micro européen de Jeanne Bergaoui.
Et rappelons que les dons à l'époque, au moment de l'incendie, avaient dépassé les 900 millions d'euros. Au soir de la deuxième journée d'enchères, l'État est assuré de retirer au moins 2,65 milliards d'euros de l'attribution des fréquences de la 5G en France.
Oui, oui, chacun des 11 blocs de 10 MHz mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros a atteint un nouveau prix de 114 millions d'euros.
Un mot du débat d'hier soir aux États-Unis, on en a beaucoup parlé. Joe Biden dénonce ce soir le comportement de Donald Trump lors de ce débat.
Comportement qui, dit-il, est une honte nationale. Les médias américains parlent, eux, de shit show. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin que je traduise.
Oui, allez-y, traduisez.
Shit show, débat de merde.
Non, je plaisante. Un tour par Roland Garros maintenant.
Absolument.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Axel May, on vous retrouve en direct avec une mauvaise nouvelle. Hein. Un nouveau Français éliminé.
Ouais, là, de chaud, il n'y en a pas eu pour Benoît Paire. Il est apparu fatigué, arrivé en manque de repères. C'est le cas de beaucoup de joueurs, vous me direz, dans cette saison chamboulée par le coronavirus. Mais lui a mal vécu sa quarantaine à l'US Open. Et Benoît Paire, huitième de finaliste l'an dernier à Porte d'Auteuil, est tombé dès le deuxième tour face à un spécialiste de la terre battue, l'Argentin Federico Coria. Ce nom vous dit quelque chose, Coria? C'est petit frère de Guillermo, ancien finaliste de Roland-Garros, c'était en 2004. Alors Federico Coria arrivait tard sur le circuit professionnel et qui a donc battu Benoît Paire 6-7, 6-4, 3-6, 1-6 en 2h30 de jeu. En ce moment, vous avez un autre Français qui est sur les cours, en l'occurrence sur le cours central, Pierre-Hugues Herbert face à Sacha Zverev, l'Allemand. Il a remporté la première manche 6-2 mais vient de perdre la troisième manche, donc 6-4, 7-6 dans la deuxième et la troisième manche pour Zverev. Et la quatrième manche vient de débuter. Et puis pour être complet, Caroline Garcia opposée sur le court Suzanne Lenglen à une Biélorusse, Sasnovich. 3-2 pour Garcia dans la première manche. Et puis on rappelle bien sûr la bonne surprise du jour quand même, le jeune Hugo Gaston, 20 ans, qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros.
Ça fait qu'il reste combien de Français là, Axel May?
Bah, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est qualifié pour le troisième tour, c'est Hugo Gaston. Mais vous avez Garcia qui, pourquoi pas, peut faire quelque chose. Bonzi, Benjamin Bonzi, lui aussi presque un néophyte qui va jouer tout à l'heure. Et puis demain, on aura notamment Clara Burel, la Française, Alizé Cornet et Fiona Ferro. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu de joueurs et de joueuses.
Heureusement, on suivra ça avec vous. Merci Axel May.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. La météo avec Anissa qui nous annonce jeudi, pas terrible, terrible. Hein.
Ouais, un vrai temps de saison, c'est ça effectivement Julien, avec une perturbation qui arrive par l'ouest cette nuit et qui demain matin, du sud-ouest aux frontières belges, donnera de la pluie. Sur la façade est et sur le pourtour méditerranéen, là le temps reste sec avec des éclaircies. Dans l'après-midi, la perturbation avance de l'Alsace aux Alpes, il pleut. En bord de Méditerranée, à part quelques entrées maritimes sur les Bouches-du-Rhône et le Var, le ciel est dégagé. Sur le reste du pays, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Alex arrive par la Bretagne et ça risque d'être violent. Les températures demain, 6 à 14 degrés le matin, 13 à 24 l'après-midi.
Bien, merci Anissa. À demain.
À demain.